On est de retour et on rejoint Priscilla Ménard et Karine Auquière, qui sont professionnelles à l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
J'ai demandé à vous parler d'abord pour parler des projets évidemment de l'Institut universitaire en DITHA, mais particulièrement par rapport aux outils qui sont disponibles en ligne pour les personnes qui auraient besoin de différents outils pour naviguer avec la déficience intellectuelle ou le trouble du spectre de l'autisme. Pouvez-vous nous parler plus généralement des outils qui sont disponibles en ligne?
Oui, tout à fait. On a plusieurs outils qui sont disponibles sur notre site web. En fait, dans les dernières années, on a développé différents outils. On en a, entre autres, on a développé une formation qui s'adresse aux intervenants pour, dans le fond, savoir comment mieux faire l'éducation à la sexualité. Il y a aussi une capsule savoir-faire là, qui l'accompagne avec des outils complémentaires. Et on a des programmes qui sont disponibles depuis plusieurs années. Là, leur acronyme est EVAS et PESADI. Il y en a un qui s'adresse aux personnes adultes qui ont une déficience intellectuelle modérée et l'autre pour les adolescents qui ont une déficience intellectuelle légère. Et ces programmes-là, bien que toujours utiles, commençaient à être un petit peu plus vieillots sur certaines thématiques dans le sens qu'il manquait peut-être certaines informations. Donc, on a développé 6 fascicules d'éducation à la sexualité sur des thématiques plus actuelles. Je vous donne un exemple. Là, on a celui-là sur la diversité corporelle, sexuelle et de genre et on a aussi celui-là sur la sexualité et la technologie. Donc, le dernier qui est sorti là, tout récemment, en fait, la semaine dernière, c'est celui-là concernant les sentiments amoureux et couples. Donc, ça, c'est un premier jet de nos outils. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça.
Oui. Bien, évidemment, là, on parle d'éducation à la sexualité, puis ce qui vous est parfois rapproché, surtout là, j'ai l'impression ces jours-ci avec le climat au Québec, là, où il y a vraiment une polarisation, c'est de dire que l'éducation à la sexualité pour des personnes qui sont vulnérables, donc des personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou qui vivent avec l'autisme, ce serait donc de pousser ces gens-là à faire des choix dont ils n'ont pas conscience, donc de les pousser vers, par exemple, à remettre en question leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, et donc leur faire faire les pousser vers un choix sans vraiment qu'ils en comprennent les implications. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Bien, dans le fond, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on essaie un peu de défaire le vieux mythe hein, qui veut que si on parle d'un sujet à une personne, par exemple autiste ou qui a une déficience intellectuelle, qu'on va lui mettre des idées dans la tête. Ça, c'est un vieux mythe. Hein. Au contraire, de mieux les renseigner, de mieux les informer, c'est au contraire une arme contre la vulnérabilité, dans le fond. Et si on leur donne pas d'informations, les personnes vont se tourner vers d'autres sources qui sont peut-être pas toujours fiables pour aller chercher l'information qu'elles veulent avoir. Donc, au contraire, c'est très important d'aborder le sujet, n'importe quel sujet qui touche l'éducation à la sexualité auprès des personnes autistes ou ayant des déficiences intellectuelles. Et ce, même si on n'est pas des experts hein, du sujet, ce qu'on veut, c'est vraiment ouvrir le dialogue, pouvoir informer la personne du mieux qu'on peut sur les sujets qui la préoccupent ou qui l'intéressent. On peut se permettre de lui dire parfois qu'on n'a pas toute l'information, qu'on connaît pas toutes les réponses, qu'on va lui revenir avec des informations, mais l'important, c'est vraiment d'ouvrir la conversation avec les personnes sur les sujets qui la préoccupent ou qui l'intéressent.
Parce que vous dites quelque chose d'essentiel ici, c'est-à-dire que ces personnes-là ont des questions, de prime abord. Hein. C'est pas quelque chose qu'on leur met dans la bouche. Ils posent des questions et dans l'optique où on leur répond pas, ben ils vont se tourner vers Internet. Hein. Puis sur Internet, ben il peut y avoir toutes sortes de mauvaises informations qui vont finalement leur nuire plutôt que de leur aider.
Exactement. Nous, c'est vraiment les personnes autistes ou ayant des déficiences intellectuelles elles-mêmes ou les intervenants ou les proches qui gravitent autour d'elles qui vont nous rapporter les sujets dont elles veulent parler, les personnes, dans le fond. Et c'est sur ça que nous, on se base pour développer des nouveaux outils pour répondre à un besoin qui nous a été exprimé par les personnes. Donc, les préoccupations et les questions viennent vraiment d'elles-mêmes.
Et on peut aussi défaire un autre mythe, c'est-à-dire que les personnes autistes ou les personnes avec une déficience intellectuelle ne sont pas toujours hétérosexuelles, ne sont pas toujours cisgenres non plus. Donc, à ce moment-là, c'est un peu de mal comprendre leur fonctionnement que de se dire qu'ils sont cisgenres ou hétérosexuels sans se poser la question, finalement, de prétendre savoir ce qu'ils sont, comme s'ils n'avaient pas un genre ou une orientation sexuelle qui peut varier comme des personnes qui sont neurotypiques.
Oui, tout à fait. Puis en fait, nous, on est vraiment dans une optique d'informer les gens. Donc, ce qu'on a développé, par exemple, nos fascicules, vous parlez là, de la diversité. En fait, ce qu'on veut, c'est que les intervenants, les proches des personnes puissent avoir la bonne information, puis aussi avoir des stratégies pour bien informer, bien accompagner la personne, là, soit autiste, soit ayant des déficiences intellectuelles, qui aurait des questions à ce propos-là, qui se questionnerait peut-être elle-même sur sa propre identité ou celle, par exemple, d'un ami. En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens aient de l'information qui est juste. Puis, tu sais, un coup qu'on a une bonne information, mais après ça, c'est plus facile aussi de prendre ses propres décisions. Fait qu'on favorise comme ça l'autodétermination aussi chez nos personnes.
Oui, bien, ça aussi, c'est un élément important. Hein? On a souvent l'idée que les personnes qui ont une DI ou qui vivent avec autisme n'ont pas d'autodétermination, donc sont incapables de faire des choix et qu'on doit faire des choix pour eux, alors que c'est faux.
Exactement. En fait, ce qu'on veut, c'est mieux les accompagner, mieux les informer. Puis là-dessus, je ferais peut-être le pont avec d'autres outils qu'on a développés au courant des deux dernières années. C'est les outils en lien avec la santé sexuelle des femmes. Donc, c'est des outils qui visent à mieux informer, pour mieux accompagner aussi nos personnes en lien avec tout ce qui est prévention et dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang, les ITSS, cancer du col de l'utérus et cancer du sein. Donc, il y a quand même un lien avec la sexualité parce que, dans le fond, il y a des choses au travers de ça, là, des examens médicaux, par exemple, là, qui peuvent être en lien avec les TSS. Puis ce qu'on veut, c'est pas en fait obliger nos personnes autistes ou ayant des déficiences intellectuelles à choisir en fait d'aller obligatoirement se faire dépister ou de prendre telle contraception. Ce qu'on veut, c'est mieux les informer pour qu'elles puissent prendre la décision qui leur convient. Fait que nous, on est vraiment dans cette optique-là d'informer, mieux accompagner.
Est-ce que vous pensez qu'encore l'idée préconçue là, que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui vivent avec l'autisme n'ont pas de vie sexuelle. Non. Est-ce que c'est encore quelque chose que vous voyez souvent, là, des gens qui pensent que finalement la vie sexuelle de ces gens-là n'existe pas?
Mais je pense que de plus en plus, là, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait, mais c'est un mythe qui existe encore, hein, que les personnes autistes ou ayant des déficiences intellectuelles ne sont pas actives sexuellement ou ne sont pas intéressées par la sexualité, qui ne souhaitent pas avoir de l'information au sujet de la sexualité. Donc, c'est justement, plus on va en parler, plus on va consulter les personnes, savoir quels sont leurs besoins sur le terrain et leurs intervenants, bien, c'est comme ça qu'on va défaire ces mythes-là. Donc, nous, on est vraiment là pour supporter un peu ce changement de mentalité-là, justement.
Est-ce que le changement de mentalité, vous sentez, qui est en train de se faire présentement, est-ce que vous voyez vraiment une avancée?
Oui, absolument. Je dirais que souvent, les gens, c'est surtout, moi, ce que j'observe le plus, c'est que les personnes se sentent peu outillés, là, oui. Par des proches et des intervenants. Je pense que les gens sont bien sensibilisés, mais ils se sentent peu outillés. Donc, c'est vraiment ce message-là que nous, on veut répéter, qu'on n'a pas besoin d'être un expert de l'éducation à la sexualité pour aborder le sujet avec les personnes. C'est beaucoup plus important d'ouvrir la conversation sur le sujet que d'être un expert. Puis, on a toutes sortes d'outils. Nous, on est là, l'Institut universitaire en DITSS, justement, pour accompagner les intervenants et les proches en mettant à leur disposition toutes sortes d'outils qui peuvent les soutenir dans cette démarche-là.
Et je peux comprendre aussi qu'il y a peut-être un malaise si on n'a jamais fait ça, de savoir comment aborder le sujet. Donc, je pense que vous faites bien d'en parler puis d'offrir des outils. Puis j'imagine que c'est une demande là, qui a été faite de la part des usagers à qui vous avez parlé. Hein.
Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que des fois, on a la parole des usagers via leurs intervenants ou leurs proches. Mais eux, c'est ça, même nos intervenants nous disaient, on n'est pas si à l'aise que ça, même si on a une formation en éducation spécialisée ou en psychoéducation, on n'est pas si à l'aise de parler d'éducation à la sexualité. Fait que c'est pour ça qu'on a développé une formation puis une capsule savoir-faire pour que les intervenants se sentent plus confortables. Puis tu sais, j'ai le goût de revenir aussi sur un message qui est quand même important. L'éducation à la sexualité, oui, tu sais, c'est bien, c'est une arme de prévention, mais c'est une arme de prévention de la violence sexuelle, autant oui. pour nos personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui sont autistes, mais aussi pour qu'elles ne fassent pas des actes qui peuvent être répréhensibles. Parce que des fois, par méconnaissance oui. Certaines oui, normes, de certaines, ils peuvent faire des choses, puis après ça, ils se retrouvent dans le trouble. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on vise vraiment une éducation à la sexualité pour que tout le monde ait des relations saines à l'intérieur de ça.
Vous faites bien d'en parler, hein? C'est des gens qui sont vulnérables, oui, d'être victimes, mais également de commettre des gestes sans le savoir, des gestes qui sont répréhensibles. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous par rapport à ce sujet-là, qui peut paraître tabou, mais je pense qu'il est important, comme vous le dites, il faut bien informer pour éviter certains dérapages. Donc, merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis on invite tout le monde à aller consulter nos outils sur notre site web. On a aussi notre Facebook. On a une infolettre pour avoir les nouvelles en primeur à chaque mois. La plupart de nos outils, là, tout ceux-là dont j'ai parlé aujourd'hui, sont gratuits et sont en ligne, donc téléchargeables à même notre site web. Donc, on invite tout le monde à aller les consulter.
Sur le site de l'Institut universitaire en DI, TSA. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci.